l'histoire. Actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire. Et aujourd'hui, actualité des revues d'histoire. Comme chaque vendredi, nous ouvrirons cette émission par un petit précis d'histoire à l'usage des candidats par Bruno Dumézil et nous recevrons ensuite les directeurs de la publication de deux nouvelles revues d'histoire, Mémoires en jeu qui s'intéresse au jeu justement de la mémoire dans nos sociétés contemporaines et Transborder Photographie, belle nouvelle revue d'histoire de la photographie. Puis à la fin de cette émission du vendredi, Amélie Meffre nous revient avec sa chronique Un saut dans la loi dans laquelle elle interroge l'actualité au regard de l'histoire aujourd'hui après les débats autour du rôle du maintien de l'ordre en banlieue en particulier, elle nous raconte comment est née, au XVIIe siècle, la charge du lieutenant de police. Mais tout de suite, Bruno Dumézil, spécialiste des Mérovingiens, nous offre un nouveau petit précis d'histoire à l'usage des politiques.
105. Allez-y, madame. Mettez votre enveloppe dans l'urne. À voter.
Petit précis d'histoire à l'usage des politiques.
Vous comptez les deux registres ?
François Mitterrand, est-ce qu'on fait dans les épargnes ?
Non.
Oui, mais pour les recompter après.
On
laisse ça et on met du nouveau. D'accord.
Ça fait 17. Il est 20h, le scrutin est clos.
Un nouveau petit précis d'histoire à l'usage des politiques. Avec vous, Bruno Dumézil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à Paris-Nanterre et vous êtes spécialiste de ces âges souvent considérés comme sombres, donc aux alentours du 5e, 6e, 7e siècle, donc les âges mérovingiens. Vous allez nous parler d'une période particulière, mais aussi d'une élection particulière. Ce sont les évêques qu'on élit à ce moment-là.
Oui, les Mérovingiens n'ont pas la réputation d'être de grands démocrates. Vous volez un vase, vous demandez une part équitable du butin, et voilà, vous finissez avec une hache plantée dans la tête. Et ne parlons pas des successions royales. Pour avoir une chance d'accéder au trône, il faut d'abord porter des cheveux très longs, et puis présenter une généalogie remontant jusqu'à Clovis. Alors bien sûr, le couronnement se fait à l'issue d'une assemblée qui réunit les grands du royaume. Mais cette élection formelle ne se produit que lorsqu'il n'y a plus qu'un seul candidat, c'est-à-dire lorsque tous les autres ont été envoyés, les uns au monastère et les autres au cimetière. Entre le 5e et le 8e siècle, le monde mérovingien a pourtant connu de vraies campagnes électorales. Pas pour le poste de roi peut-être, mais pour celui d'évêque. À la mort de chaque prélat, la ville devait en effet voter pour déterminer qui serait le prochain homme à diriger l'église locale. L'usage remontait à l'Antiquité. Le concile réuni à Nicée en 325 en avait même précisé les modalités. Tout évêque devait être élu clero et populo. Littéralement, l'expression signifiait « par le clergé et par le peuple ». En pratique, l'élection ne rassemblait que les gens jugés sérieux, c'est-à-dire du côté du clergé, les prêtres, les diacres, quelques abbés respectables, et du côté des laïcs, les hommes les plus riches, les plus puissants et les plus influents de la communauté. Même si le corps électoral était réduit, il représentait indiscutablement les grandes factions en présence dans la ville. On pourrait pratiquement parler de grands électeurs. Par malheur, les évêques mérovingiens avaient une santé de fer. Saint-Rémy occupa le siège de Reims pendant plus de 60 ans, et les épiscopats de plusieurs décennies n'étaient pas rares. Dans ces conditions, chacun guettait les prélats malades ou moribonds pour ne pas rater le bon moment. Une fois l'élection annoncée, les candidats entraient en lice et présentaient leur bilan. Dans le désordre, avoir dirigé un monastère, avoir été persécuté par sa foi, ou être le fils d'un précédent évêque. Oui, chez les Francs, on pouvait être évêque de père en fils, à condition bien sûr de réussir à être élu. Si personne ne parvenait à convaincre les grands électeurs, d'autres arguments intervenaient. Les candidats les plus riches achetaient des votes, les autres en étaient réduits à faire des miracles ou à avoir des visions. Dans l'ensemble, le débat électoral restait relativement courtois, même s'il pouvait toujours déraper. À Autun, par exemple, dans les années 650, les deux principaux candidats à l'épiscopat s'entretuèrent pour obtenir la mitre. Les souverains mérovingiens avaient compris que les élections épiscopales constituaient un facteur de désordre. Par conséquent, dès que le poste était disputé, le roi des Francs se réservait le droit d'imposer son propre candidat. Même à l'époque où il était encore païen, Clovis nommait déjà des évêques. c'était là l'occasion de procéder à des parachutages de personnalités extérieures ou surtout au recasage de hauts fonctionnaires. C'est ainsi que le bon Saint-Éloi devint évêque de Noyon après avoir été le ministre des Finances de Dagobert. Parfois, le palais n'avait personne à placer. Mais comme le trésor royal était notoirement vide, le poste allait au candidat le plus offrant. En règle générale, les évêques nommés par le palais étaient des gens capables. Pas de grands mystiques sans doute, mais d'excellents gestionnaires à la fois du temporel et du spirituel. Mais bon, ce n'étaient pas des personnalités locales. Par conséquent, lorsqu'un poste se libérait, les villes prirent l'habitude d'organiser des sortes de primaires. Le collège électoral se réunissait informellement, s'accordait par avance sur un candidat unique que le palais serait bien obligé de désigner. C'était un peu hypocrite, mais cela marchait. Exceptionnellement, le hasard voulait que ce ne soit ni le candidat du roi ni le régional de l'étape qui l'emporte. Par exemple, au milieu des années 660 en Auvergne, l'évêché de Clermont devint vacant. Un prêtre de moyenne extraction se porta candidat. Il s'appelait Praiectus. On lui demanda alors, je cite, s'il savait combien d'or et d'argent il fallait avoir pour obtenir cette fonction. Faute de pouvoir lever des fonds pour mener sa campagne, Praiectus fut débouté et on lui préféra l'archidiacre de la ville, un certain Garivald. Mais Garivald mourut 40 jours après avoir été élu. Praiectus proposa à nouveau son nom lors de la nouvelle élection, mais cette fois le palais ordonna d'élire le comte de Clermont, Genesius. Mais Genesius refusa la promotion. Faute de nouveaux candidats, Praiectus obtint donc le siège épiscopal qu'il convoitait après une désignation, clero et populo, accomplie dans les règles. Et on aurait pu croire que cet évêque de petite naissance et canoniquement élu donnerait toute satisfaction. Ce fut le contraire. Pour essayer de prouver ses compétences, Praiectus de Clermont se mêla de haute politique. Ce faisant, il contribua à faire assassiner un de ses collègues évêques. Et au niveau local, Praiectus suscita également l'inimitié de toutes les puissantes familles d'Auvergne. Ainsi donc, un beau jour de 676, Praiectus, l'évêque qui avait été élu clero et populo, finit également assassiné clero et populo par son propre clergé et par ses propres ouailles. En somme, les Mérovingiens n'avaient rien contre les élections. Il fallait simplement que le résultat des votes corresponde aux attentes tacites des élites et même de toute la société. Sinon, tout était à refaire et on en revenait à des modes plus ordinaires et peut-être plus violents de désignation des chefs.
Merci beaucoup Bruno Dumézil. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Paris-Nanterre, spécialiste des Mérovingiens. Merci de nous avoir raconté cette élection d'évêque compliquée, on l'a compris, pendant la période mérovingienne. On peut télécharger séparément de l'émission du jour cette chronique et garder ainsi par-devers soi l'ensemble de ces petits précis d'histoire à l'usage des politiques. J'espère qu'ils en feront bon usage, justement. Un extrait du nocturne numéro 20 de Chopin, qui fait partie de la bande originale du film Franz de François Ozon, dont on a déjà parlé dans cette émission, mais qui ouvre donc une critique de ce film, ouvre le numéro 2 de la revue Mémoires en jeu, revue dont on va parler maintenant avec deux de ceux qui en sont les responsables, à savoir Luba Jürgensen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc à Paris 4 et vous faites partie de la rédaction en chef de cette nouvelle revue, c'est le numéro 2, donc une revue qui a commencé à paraître au mois de septembre dernier. Et Philippe Ménard, bonjour Philippe Ménard.
Bonjour.
Vous en êtes le directeur de publication. Comment peut-on se lancer aujourd'hui dans, alors que tout le monde veut faire des revues sur le net, dans des revues papier et en particulier des revues qui, certes, vous insistez là-dessus, ne sont pas seulement des revues d'histoire, mais qui sont des revues d'histoire, en l'occurrence Philippe Ménard.
Je pense que c'est un complément. C'est-à-dire que la revue papier, il est important de la tenir aussi en main. Il y a des photographies, et les photographies, on a besoin de sentir le poids aussi. Et c'est pour ça qu'on a choisi le format magazine aussi, qui est un format qui se prête particulièrement à mettre en valeur les images. Et ces images, évidemment, elles peuplent notre mémoire, nos mémoires. Donc c'était aussi une bonne raison pour continuer au niveau du papier, ce qui est aussi un enjeu, évidemment, un enjeu de recherche de fonds, mais avec le complément d'un site qui travaille aussi plutôt en complément pour mettre des vidéos d'entretien, puisque notre revue ouvre large à la fois sur des chroniques, notamment sur des films, sur des entretiens et sur des dossiers.
Oui, alors donc ce titre, c'est Mémoires en jeu. Il se trouve qu'il y a presque 20 ans naissait La Fabrique de l'Histoire sur ce thème justement du conflit, disait-on à l'époque, entre mémoire et histoire. Luba Jorgensen, qu'en est-il aujourd'hui de ces questions de mémoire et en quoi ont-elles peut-être dépassé justement ce conflit qu'on notait à l'époque entre historiens et spécialistes ou tenants de la mémoire, en particulier de la Seconde Guerre mondiale, Luba Jorgensen?
Un des enjeux de la revue, c'est justement de dépasser ce genre de clivage, puisque c'est une revue pluridisciplinaire qui regroupe à la fois historiens, littéraires, donc une revue conçu comme un dialogue aussi entre les disciplines sur ces questions des événements traumatiques, entre autres du
XXe siècle,
mais pas seulement, puisqu'il y a aussi des par exemple dans le dernier numéro, il y a un texte qui porte sur la mémoire de Custoza, des batailles de 1848 et 60. Donc voilà, c'est on ne la limite pas au XXe siècle, mais bien sûr les événements du XXe siècle sont très présents.
Le premier numéro avait pour dossier une confrontation, pourrait-on dire, entre deux visions du goulag, celle de Solzhenitsyn et celle de Chalamov. Vous en étiez responsable de ce premier dossier. Le deuxième numéro, qui vient tout juste de sortir en librairie, donc a un dossier sur le dernier film d'Auschwitz-Birkenau, un film dont on a évidemment parlé à La Fabrique de l'Histoire, à savoir Le Fils de Saul. Le troisième, qui paraîtra au mois de juin, sera consacré à ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon le dark tourisme, le tourisme de mémoire. Ce sont tout de même des sujets qui sont plutôt centrés sur le XXe siècle, même si vous avez pour prétention à développer des sujets sur d'autres périodes historiques. Dans le numéro 2, la tribune est offerte à Stéphane Michonneau, qui est spécialiste de l'histoire de l'Espagne, en l'occurrence, et en particulier de la guerre civile espagnole. Et il se pose la question de savoir à quoi servent les mémoires aujourd'hui. Et en particulier, il note qu'il y a, dit-il, une sorte de mondialisation des mémoires et de passion patrimoniale qui pourrait relever d'un rapport fétichiste au passé, conjugué à une culture de la paix. Sont des questions que vous abordez et que vous aborderez très régulièrement dans cette revue, Philippe Ménard.
Oui, parce qu'en fait, justement, mémoire en jeu, c'est aussi le fait que les mémoires, à la fois, elles donnent l'impression d'être très bien installées dans notre culture et dans notre société, mais si on regarde un petit peu politiquement les derniers événements, que ce soit en Pologne, en Hongrie, aux États-Unis, finalement, elles peuvent être très vite exposées à être mises en question. Donc, on est presque sur une double vision. On a l'impression qu'on est installé dans le devoir de mémoire et que tout est normalisé. Et puis, d'un autre côté, très facilement, ça peut être renversé politiquement, venant de tous horizons. Donc, la question, c'est justement de pouvoir porter un regard critique sur les phénomènes de mémoire et sur leur fragilité paradoxale, finalement. Et de continuer ce travail avec des chercheurs et des gens de la société, donc un travail pluridisciplinaire qui ne s'isole pas du terrain.
Alors il faut bien dire effectivement que ces questions de mémoire prennent des formes très différentes. Luba Jorgensen, il y a effectivement des expositions de mémoire, il y a des associations de mémoire. Vous avez travaillé en particulier sur la façon dont Mémorial en Russie aujourd'hui tente de faire émerger et de rester émerger dans une société qui ne voudrait peut-être pas l'entendre autour de la question question des crimes du communisme et du stalinisme en particulier. Il y a donc des formes qui peuvent prendre aussi des lieux de mémoire, à savoir des mémorialisations qui sont installées. Un travail sur, par exemple, la façon dont l'Argentine se souvient, c'est dans le premier numéro, l'Argentine se souvient de ce qui s'est passé pendant la dictature argentine. Donc il y a tout un tas de formes qui, d'une certaine façon, émergent dans l'espace public, font des débats dans l'espace public, et je ne parlerai pas des débats depuis hier ou avant-hier autour des déclarations d'Emmanuel Macron en Algérie, Luba Jurgensen.
Eh bien oui, justement, c'est une se lancer dans la publication d'une revue comme ça, c'est avant tout réfléchir sur le présent, hein, et de traquer à travers la société contemporaine ces manifestations de la mémoire qui peuvent prendre des formes très diverses et qui sont bien sûr qui peuvent avoir une dimension politique, qui peuvent aussi incarner des espoirs utopiques d'un vivre ensemble tout à fait consensuel. C'est aussi réfléchir sur ces questions, c'est aussi réfléchir à la manière dont les sociétés contemporaines intègrent cette présence-absence des disparus, qui comment ils négocient avec leurs fantômes, quelle est la distribution des espaces profanes et sacrés aujourd'hui dans le monde et comment on vit avec ça. Donc il y a tous ces éléments. Et effectivement, en ce qui concerne ce dossier sur Solzhenitsyn et Chalamov, il s'agissait aussi d'aller explorer un peu cette mémoire qui est relativement peu présente dans les études mémorielles, en fait, qui est la mémoire du goulag.
Et on voit par exemple dans l'entretien que vous avez avec Tomáš Kysný, que vous avez réalisé en 2014 et qui est diffusé dans ce premier numéro de Mémoire en jeu, combien effectivement les questions d'un photographe, il est photographe, il se pose la question de savoir comment peut-on représenter, alors on le sait, débat entre Didier Huberman et Claude Lanzmann sur la représentation ou non de la Shoah, comment on peut représenter ces camps du goulag qui ont disparu pour la plupart d'entre eux et comment... Peut-être la seule représentation possible, c'est d'entendre le silence, parce qu'il y a du silence là où il devrait y avoir de la vie. Ce sont des questions qui sont extraordinairement intéressantes. Il parle de l'hyper-réalité du banal, par exemple.
Oui, comment entendre le silence et comment photographier le silence.
Oui.
Et on voit aussi, et c'est un des buts aussi de la revue, de réfléchir sur la circulation des modèles mémoriels. Justement, on voit bien que pour Kysný, par exemple, les questions soulevées par Lanzmann dans Shoah ont été l'ont guidé dans son travail de photographe. Et ce dont on se rend compte aussi, c'est que c'est peut-être les artistes parfois qui ont des réponses à ces questions.
Et c'est pour ça que dans le deuxième numéro, vous avez interrogé Haïm Kern et qu'on le trouve en particulier sur le site. Il y a une petite vidéo d'Haïm Kern qui est un sculpteur qui avait, l'article s'appelle Mémoire entre les mailles, qui avait travaillé à une sculpture sur le plateau de Californie à Craon, Philippe Ménard, et une sculpture qui doit être déplacée, qui va être déplacée. Il réfléchit à cette question de ce que c'est de commémorer et ensuite d'installer donc une structure commémorative et ensuite de devoir la déplacer, Philippe Ménard.
Oui, de devoir la déplacer parce que aussi cette sculpture a été pillée. Donc c'est, il y a une œuvre en mouvement, mais évidemment en mouvement face au négatif qui l'a frappé. Et il nous importait effectivement d'avoir cet entretien avec lui, de le reproduire en vidéo sur notre site pour montrer tout justement, pas simplement un instant figé, mais que ce travail de la mémoire traverse toute son œuvre.
Et alors, une des questions qui est posée, c'est la question de du caractère transnational de ces mémoires, Luba Jurgensen. Qu'est-ce qu'on entend quand on est donc spécialiste comme vous de ces questions de mémoire dans le caractère transnational de la mémoire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de nationalisation de la mémoire. Elle serait, parce que tout de même, on sent des renationalisations, des caractères identitaires très forts, en Russie en particulier, mais partout ailleurs. On voit combien, effectivement, le gouvernement russe n'aide pas l'émergence d'une mémoire, en particulier de la terreur stalinienne ou de la terreur communiste, mais au contraire, tente de marginaliser l'association mémoriale. Donc, comment ça se passe, cette question de rapport entre caractère national de la mémoire et caractère transnational de ces mémoires?
Je crois qu'il faut relativiser d'abord cette idée de mondialisation de la mémoire qui existe certainement, mais on entend par là plutôt la diffusion en fait des modèles, c'est-à-dire qu'on va voilà utiliser un peu les mêmes matériaux, les mêmes façons de représenter la disparition, de représenter la violence. On va trouver partout dans le monde entier des murs de visages, des murs de noms, mais après effectivement il y a plutôt une crispation identitaire dans beaucoup de pays.
Vous dire que cette mémoire peut prendre des formes transnationales, c'est-à-dire qu'effectivement oui. La question des lectures régulières, des listes de noms pour un anniversaire, c'est quelque chose qui est devenu, à partir peut-être de l'exemple de la lecture des victimes de la Shoah, qui est devenu une façon de commémorer les drames du XXe siècle en particulier, mais aussi ces listes de noms que l'on trouve dans les mémorials de la Shoah sont devenus, les mémoriaux de la Shoah sont devenus des topoi, pourrait-on oui. dire, de la muséification de tous les drames du XXe siècle.
Tout à fait, on va les trouver dans tous les musées, mais il y a aussi quelque chose de ces modèles, enfin ces formes peuvent aussi générer des approfondissements, en ce sens qu'on s'est rendu compte justement que retrouver les noms, c'est le béaba de la mémoire. Mmh. Et donc on va justement l'association mémoriale, qu'est-ce qu'elle fait entre autres? Son action a commencé par l'idée qu'il faut retrouver les noms des victimes. Et donc c'est ça la l'internationalisation de la mémoire.
Philippe Ménard, dans le numéro 2, vous avez un grand entretien avec Gayatri Spivak, donc une de celles qui a pensé les subaltern studies, et on se dit, tiens, pourquoi Spivak dans une revue comme Mémoire en jeu?
Justement, parce que les subaltern studies...
Alors, expliquez peut-être à nos auditeurs comment on peut qualifier les subaltern studies.
Disons que c'est une émanation des post-colonial studies qui va... dont Gayatri Spivak était, on peut dire, la créatrice, et qui va effectivement s'intéresser à quoi? Qui va s'intéresser aux violences extrêmes, souvent dans une perspective marxiste ou avec une origine marxiste, mais qui rejoint le même terrain que la question de la mémoire.
Avec la question coloniale souvent en plus.
Et avec la question coloniale, mais la mémoire évidemment bien aussi sûr. Liée à la question coloniale. Vous rappeliez Emmanuel Macron il y a deux jours. Et précisément, c'est aussi l'idée de venir interroger la mémoire à partir de domaines qui lui sont voisins, mais qui peuvent paraître cloisonnés. Donc de décloisonner ces champs de savoir, de venir interroger nos propres domaines de l'extérieur, de façon à établir des passerelles, et ne pas avoir l'impression que finalement toute la mémoire est là assurée et qu'on y est confortablement.
Louva Jürgensen, quand on vous écoute et quand on lit ces deux numéros déjà parus de Mémoires en jeu, on voit que c'est un groupe qui travaille, on voit que c'est un groupe qui, d'une certaine façon, agrège déjà, au bout de deux numéros, des gens nouveaux qui n'étaient pas dans le premier groupe qui l'a créé, et qu'il y a là quelque chose de collectif. On s'aperçoit que la dimension collective, on le disait à propos de Mode Pratique la semaine dernière, cette revue d'histoire de la mode absolument extraordinaire qui vient de paraître, cette dimension collective est importante dans le domaine de la recherche, et qu'il y a aussi peut-être une envie de d'éclater les cadres, c'est pas simplement la transdisciplinarité, mais aussi les petits milieux dans lesquels on se trouve pour pouvoir discuter ensemble.
La revue est née effectivement de la volonté de plusieurs personnes qui étaient préoccupées par ces questions de la mémoire de fédérer leurs approches et de dialoguer et de faire quelque chose ensemble. Donc le
monde contemporain. On peut citer quelques noms, Aurélie Bargeonnet avec vous, Clotilde Couey, Philippe Ménard est ici présent, mais aussi Nicolas Beaupré, Delphine Bechtel, Anne Becker, et je ne les citerai pas tous parce qu'ils sont trop nombreux, Agnieszka Grudzińska et d'autres que nous avons déjà reçus dans cette émission et que nous n'avons pas reçus, évidemment, nous n'avons pas reçu tout le monde, en l'occurrence Louva Jürgensen.
Oui, et donc voilà, l'idée, c'était de le monde contemporain est finalement assez pauvre en entreprises collectives de intellectuels.
Mais on s'aperçoit qu'il y a un véritable désir de ça tout de même.
Oui, il y a un désir de ça. Et donc, oui, effectivement, comme les noms que vous avez cités prouvent que les collaborateurs de la revue viennent de champs et de disciplines différents. Mais il y a aussi des non-universitaires. Et il y a aussi une volonté d'intégrer des jeunes parmi les voilà. Il y a des jeunes doctorants qui écrivent dans la revue ou pas doctorants.
Hein. Ouais. Philippe Ménard, sur ces questions de travailler ensemble autour de ces questions de mémoire pour se frotter, se confronter et peut-être aussi, j'imagine que quand on parle de mémoire, on n'est pas forcément toujours d'accord.
Oui, bien sûr, mais justement, ça fait partie des enjeux de la mémoire actuelle, c'est-à-dire d'essayer de faire que la mémoire ne soit pas simplement représentée par quelques figures qui occupent le champ au sens bourdieusien du terme. Et peut-être est-ce notre utopie, hein, mais de dire que on peut penser collectivement cette question de mémoire et de façon interdisciplinaire ou multidisciplinaire et qu'on arrive précisément dans cet échange. Et la preuve en est le dossier sur le fils de Saül, qu'on arrive dans cet échange à croiser nos opinions sans créer de dissensus.
Alors que tout le monde n'est pas d'accord autour de la qualité, l'intérêt d'un film comme celui-ci.
Voilà, justement. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des voix, notamment un entretien avec Catherine Perret, qui est absolument critique sur ce film, mais qu'il était important de donner. Parce que finalement, si c'est pour reproduire une revue qui n'est qu'une bannière et un précaré. Bon, dans ce cas-là, on peut la laisser aux autres.
Et Lubar Janssen, un dernier mot sur cette revue, justement, et sur ce travail en cours, parce que dans le coup, on sait qu'en avril paraîtra, j'ai dit en juin, c'est en avril paraîtra un numéro qui sera, dont le dossier sera coordonné par Annette Becker autour du tourisme mémoriel, la face sombre de la Terre, justement, on parlait des lieux de commémoration. D'autres idées en cours ?
Oui, on est le 4 est déjà en route et il sera consacré aux commémorations des événements très proches, comme les attentats du 13 novembre ou l'attentat contre Charlie Hebdo.
Voilà, les travaux de Sarah Gainsbourger qui viennent de paraître sur justement ce quartier du Bataclan, et elle sera peut-être dans ce numéro, j'imagine.
Elle sera dans ce numéro.
Merci à tous les deux, Philippe Ménard et Luba Jorgensen, d'avoir parlé donc des deux premiers numéros. Le premier est sorti en septembre et le deuxième il y a à peine 3 semaines maintenant. Les deux premiers numéros de Mémoires en jeu, il y a un site, on le mettra évidemment sur le site, mais également c'est publié aux éditions Kimé, puisque nos auditeurs qui sont aussi libraires vont nous interroger pour savoir où on peut trouver cette revue. Donc c'est les éditions Kimé, K-I-M-E, qui publient Mémoires en jeu. Il y a un surtitre, Memories at Stake, parce que vous voulez aussi travailler en langue anglaise.
Bah parce que effectivement, dans chaque numéro, il y a un certain nombre d'articles en anglais hein, pour s'ouvrir aussi. J'ajouterais par rapport à Kimé que c'est distribué par les Belles Lettres, le réseau des Belles Lettres, à l'attention des libraires. Ouais. Voilà.
C'est très important pour les revues, effectivement, puisque vous aurez peut-être quelques demandes après cette émission. Merci à tous les deux.
Merci.
France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Une fabrique de l'histoire consacrée aujourd'hui en partie à la question des revues d'histoire et pas simplement. Nous venons de parler donc de la revue Mémoires en jeu et nous recevons Christian Josque. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes donc maître de conférence à Paris-Nanterre, spécialiste d'histoire de la photographie et vous lancez avec d'autres une revue qui s'appelle Transborder Photographie, Histoire et Société. J'avais pas bien compris la couverture, je pensais que c'était juste Transborder Photographie. C'est Transborder Photographie, Histoire et Société et ça paraît aux éditions Macu. Là, c'est le numéro 1 d'une revue d'histoire de la photographie. Il y avait besoin d'une nouvelle revue d'histoire de la photographie. C'était une envie qui vous était venue comment, Christian Josque ?
L'envie est venue d'abord de collaborer avec Olivier Lugon, qui dirige avec moi la publication de cette revue, pour créer une revue qui soit annuelle et donc préparée dans une temporalité relativement longue.
Lente.
Assez lente, mais qui permet de travailler sur des numéros relativement cohérents avec des dossiers importants, des dossiers thématiques, comme dans ce numéro, un dossier sur l'histoire des musées de photographie documentaire autour de 1900. Et en effet, ce type de format était encore n'existait pas sous cette forme. Et
alors, une forme dont il faut dire qu'elle est très belle aussi. Ça coûte 29 euros, mais c'est un très beau document. Beaucoup de photographies, évidemment, puisque c'est le sujet central de cette revue. Mais surtout, une très belle maquette qui vous permet, d'une certaine façon, de renouveler peut-être aussi la question de la présentation de l'histoire de la photographie. Surtout quand on s'intéresse à ces photographies qui sont au tournant du 19e et du 20e siècle.
Alors, l'enjeu de cette revue, ça a été de faire concorder une ligne éditoriale avec un objet. Et je dois saluer la collaboration avec les éditions Macula et avec nos graphistes, Johanna Schafter et Vincent Sally. La ligne éditoriale, elle est la suivante, c'est-à-dire qu'on essaye de donner un écho à ce qu'on peut appeler un tournant matériel de l'histoire de la photographie, qui s'intéresse à la matérialité des objets, la photographie sous ses formes matérielles, les supports, la question de la dimension, et aussi selon une autre acception de la matérialité, qui est celle de l'interrogation sur les conditions économiques et sociales, institutionnelles et politiques de la production des images. Et donc ces deux acceptions de la matérialité se retrouvent ici représentées sous cette forme de livre qui donne la place aux images et aux images en tant qu'objet.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on plonge dans cette revue Transborder Photographie, Histoire et Société avec vous, Christian Joschke, et on s'aperçoit effectivement qu'il y a des sujets auxquels on n'avait jamais pensé. Le lien entre l'espéranto et les sociétés documentaires de photographie. Ça, je dois reconnaître que faut quand même vouloir le penser. L'importance de l'espéranto fin de siècle, évidemment, et comment certains peuvent penser, des généraux d'ailleurs, peut penser qu'il y a peut-être une possibilité de faire un joint entre la mode de cet espéranto, nouvelle langue universelle, et l'intérêt de présenter des photographies documentaires en particulier.
Alors, vous faites référence à l'article de Luce Lebar. En effet, dans ce dossier sur l'histoire des musées de photographie documentaire, il faut dire que la notion de document s'articule étroitement avec une utopie un peu positiviste, qui est celle de la réunion de tous les documents de la culture dans des musées, dans des lieux, dans des collections.
Une vision encyclopédique qui pourrait ressembler à un cabinet de curiosité rénové à la fin du 19e siècle et qui serait cette capacité à montrer, comme d'ailleurs à la Société de géographie, le monde entier dans un seul lieu, par exemple.
Exactement. Cette utopie a été partagée par différentes personnalités dans différents pays. Et l'intérêt de ce dossier, c'est d'avoir fait une histoire comparée de toutes ces entreprises. Et en effet, dans son article, Luce Lebar insiste sur l'étroit lien qu'il y a entre cette volonté encyclopédique de représenter les cultures du monde et l'espéranto qui entend faire dialoguer les différents lieux de la planète grâce à une langue commune.
Et on entendait tout à l'heure, en ouverture de cette petite séquence, un extrait de Manuel de Falla, qui était un ami d'Albert Berkane, le mécène philanthrope. Il y a deux articles qui mettent en avant le travail des archives de la planète, puisque c'est comme ça que ça s'appelait, entamé donc au tout début du XXe siècle et interrompu par la faillite, pourrait-on dire, des affaires d'Albert Kahn dans les années 30 au moment de la Grande Crise, avec ces autochromes absolument merveilleux que connaissent sûrement certains de nos auditeurs. Et il y a deux articles sur cette question-là. La mise en parallèle, par exemple, des archives de la planète et des archives de la paroles que nous avons, dont nous avons souvent parlé ici, parce que ce sont les premiers enregistrements que l'on peut trouver à la Phonothèque nationale, en particulier à la Bibliothèque nationale de France, des accents en particulier, parce que Ferdinand Bruno était linguiste et avait peur de la disparition des accents sur le territoire français, et les Archives de la Planète, eux, en photographie, par l'intermédiaire de ces autochromes, tentent de figer. Et une des questions qui est posée par cette revue Transborder Photographie, Histoire et Société, c'est de savoir quelle était l'intention d'Albert Kahn. Et d'une certaine façon aussi, comment ces intentions sont relues aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on comprend de ce que voulait Albert Kahn et qu'est-ce qu'on lit dans cette collection formidable d'autochromes qui montre à la fois le Japon, Thessalonique, à la veille des guerres balkaniques ou tout un tas d'autres endroits, Christian Joschke.
Oui, ben, vous avez raison de rappeler, de souligner ces deux articles, donc de Valérie Perles, qui est la directrice du musée Albert Kahn, et de Teresa Castro, pour évidemment souligner d'abord la proximité des archives de la planète avec les archives de la parole, qui n'est pas simplement une proximité sémantique. Évidemment, le mot archive revient dans les deux cas.
Mais, et chronologique aussi.
Et chronologique, mais aussi une proximité de projet. L'ambition d'Albert Kahn, c'était de pouvoir présenter des témoignages visuels de toutes les cultures du monde. Il envoyait des opérateurs dans les différents pays du monde pour réaliser des photographies patrimoniales et ethnographiques. Il était aidé par le géographe Jean Brune, professeur au Collège de France, qui a orienté, disons, scientifiquement et intellectuellement son entreprise. Mais c'est un vaste projet sur lequel la réflexion est encore en cours. D'ailleurs, le musée Albert Kahn est en train d'être rénové. Il va ouvrir dans un peu plus d'un an. Mais voilà.
Et on y découvre aussi des personnages tout à fait fantasques et intéressants. Alors, par exemple, Boleslav Matuszewski. Évidemment, je connaissais absolument pas Boleslav Matuszewski, qui a fait partie de ceux qui, peut-être les premiers, ont réfléchi à cette question du passage de l'image fixe à l'image mouvante. Dès 1898, il réfléchit sur ce que l'on peut faire, justement, de cette image mouvante, comment on peut la documenter et comment on peut la conserver. Des questions qui sont... le cinématographe vient tout juste de naître et il se pose déjà cette question. En l'occurrence.
Alors cette question était posée par les Frères Lumière, par Matuszewski, mais aussi par Albert Kahn, puisque les archives de la planète, c'est aussi des archives ce sont aussi des archives cinématographiques.
Et il est bien noté d'ailleurs qu'on connaît moins les archives cinématographiques des archives de la planète que les archives photographiques aujourd'hui, en l'occurrence.
Oui,
elles sont moins représentées, on les voit moins souvent d'une certaine façon.
On les voit moins souvent, mais on commence à bien les connaître grâce aux travaux de Teresa Castro et d'autres jeunes chercheurs et du musée Albert Kahn. Mais en effet, la volonté d'enregistrer le mouvement, et pour compléter l'innovation d'Albert Kahn, ça a été d'abord de s'intéresser aux couleurs. Mmh. C'est quand même une collection d'autochromes magnifique,
extraordinaire,
et s'intéresser au mouvement, c'est-à-dire d'augmenter les capacités de la photographie en ajoutant la couleur d'une part avec les autochromes et le mouvement d'autre part avec les films, les enregistrements filmés.
Et vous avez donc écrit un article dans cette revue Transborder Photographie, Histoire et Société paru chez Macula sur la question du cas allemand. Vous êtes un peu spécialiste de cette question-là, Christian Joschke, de cette photographie documentaire, des usages que l'on peut faire de cette photographie documentaire dans l'Allemagne dans les années 1900, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles disent ces photographies documentaires de fermes, de fermiers, du terroir, qu'est-ce qu'elles disent de l'Allemagne de ces années-là, de l'Heimat en particulier, et comment d'une certaine façon elles folklorisent aussi le territoire allemand alors qu'elles pourraient avoir une autre fonction, c'est-à-dire de le mondialiser dans un contexte de première mondialisation.
Oui, on assiste clairement à une invention des traditions, c'est certain. Mais l'intérêt de la comparaison ici, c'était de pouvoir montrer, notamment en comparant avec le cas britannique, que les Britanniques, en particulier fédérés par des clubs d'amateurs, mais aussi des bibliothèques, ont opéré des collectes de photographies documentaires orientées par une idée de l'histoire et du patrimoine. Mmh. En Allemagne, la chose est un peu différente, c'est surtout les anthropologues, les ethnologues qui ont été en quelque sorte qui ont orienté ce projet documentaire.
Les mêmes qui d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, vont enregistrer beaucoup dans les camps de prisonniers allemands. Les premiers enregistrements de chants traditionnels, corses ou autres, parce qu'ils vont être à l'œuvre pour pouvoir se dire, bah, puisque la guerre est là, puisque nous avons sous la main des prisonniers de toutes les nations, nous allons donc commencer à enregistrer leurs voix, leurs accents, etc., etc. Ces anthropologues allemands.
Le projet de documentation des cultures en Allemagne n'est pas piloté par des historiens, mais par des Volkskundler, comme on dit, c'est-à-dire des folkloristes, des ethnologues.
Et donc dans ce numéro qui est très riche, il y a aussi évidemment des questions qui se posent sur les usages du portrait en Afrique, chez les Ewe par exemple, un article tout à fait étonnant sur ce qu'on fait justement des portraits, en particulier de ceux qui sont morts, comment on les conserve et qu'est-ce qu'on en fait auprès de soi. Donc il y a une dimension aussi anthropologique et pas simplement historique.
L'idée de cette revue, c'est d'articuler les différentes disciplines autour de la photographie, autour de son caractère matériel. L'anthropologie est présente, l'histoire de l'art avec l'article de Romy Golan sur une performance artistique à Côme en 1969 autour de Bruno Munari, d'Hugo Moulas, mais aussi l'histoire des sciences avec Frank Gilbreth, un article de Bernd Stiegler qui porte sur ce scientifique qui voulait codifier les gestes du quotidien et qui faisait des expérimentations photographiques pour enregistrer un peu à la manière de Marais les gestes du quotidien, sur une organisation scientifique du quotidien, on pourrait dire. Donc l'idée, c'est vraiment de transborder. Quand on entend transborder, on entend trans et border.
Alors transborder, il faut dire que
c'est de passer les frontières et de faire dialoguer les disciplines autour de cet objet qui est l'image reproductible.
Oui, c'est quand même très très bizarre d'appeler une revue de photographie d'histoire et de société du nom du pont transborder de Marseille. Parce
le pont transborder de Marseille, évidemment, c'est l'allusion de ce titre, a été un objet de fascination pour toute l'avant-garde photographique des années 20. Il a été construit, vous le savez, en 1905 par l'ingénieur Arnaudin. Et c'est
détruit pendant la guerre.
Détruit en 1944 pendant la bataille de Marseille. La particularité de ce pont, c'est que c'est une structure très légère, métallique, très haute, 50 mètres de hauteur, 240 mètres de long, et qui a cette particularité, en tout cas pour les photographes de l'époque et pour l'historien de l'art Siegfried Guillédon, qui est l'élève de Wölflin, qui s'est beaucoup intéressé à l'architecture moderne et qui ouvre son livre sur construire en France, Bauen in Frankreich, sur le pont transborder. L'intérêt du pont transborder pour tous ces gens, c'était que c'était pas seulement un monument d'architecture ou un outil de circulation dans Marseille, mais aussi un instrument de vision. C'est un pont qui a transformé le regard sur la ville.
Et transformer le regard sur la ville et le regard sur la représentation que l'on peut avoir aussi de la ville de Marseille encore dans les années 80. Je crois que c'est dans le film de René Alliot, par exemple, Transit, où il raconte justement l'exil des opposants au nazisme qui attendent le transit possible pour partir aux États-Unis ou ailleurs, en tout cas pour quitter la France occupée. Il représente le pont transborder, il l'a fait recréer, je ne sais pas si c'était de façon numérique, pour pouvoir montrer effectivement combien ce pont transborder disait quelque chose de ce qu'était cette ville de Marseille comme lieu de passage, en l'occurrence Christian Jochen.
Il marque la mémoire d'une ville qui était un lieu de passage, un lieu d'exil pour beaucoup de gens, et en effet c'est resté un symbole, et pour nous le pont n'existe plus, le symbole est encore là, et un symbole aussi pour une méthode d'histoire de l'art qui est de s'intéresser aux objets techniques et à la façon dont les objets techniques transforment notre regard sur le monde.
Et donc, j'imagine qu'il y a déjà un numéro 2 en préparation de ce...
Le numéro 2, alors la périodicité, vous l'avez dit, est annuelle. Le numéro 2 est en préparation pour le mois de janvier 2018.
C'est pas tous les deux ans. Oui.
Sur la photographie exposition. Alors, on traitera... Bon, l'histoire des expositions, évidemment, est un domaine qui attire beaucoup les historiens d'art aujourd'hui et qui est très, très suivi. Et dans la particularité de ce dossier, ça va être de s'intéresser aux expositions, pas simplement aux expositions artistiques, mais aux expositions commerciales, aux expositions de propagande, aux expositions universelles, donc à la présence de la photographie dans l'exposition et à l'usage des photographies d'exposition pour disséminer, diffuser l'exposition comme médium. Par le biais de la photographie.
Merci Christian Joschke d'être venu nous présenter Merci le numéro.
Alors, je rappelle que la revue peut être commandée sur le site macula.com et qu'elle est disponible dans toutes les bonnes librairies.
Effectivement, et donc les bons libraires qui nous écoutent vont tout de suite se précipiter pour pouvoir en commander quelques-unes après cette émission Transborder Photographie Histoire Société numéro 1 paru aux éditions Macula. Mais il est temps d'être avec vous Amélie Meffre pour votre chronique mensuelle dans la fabrique de l'histoire, un saut dans la loi. Vous nous rappelez généralement comment un événement contemporain peut avoir un lien avec une histoire bien plus ancienne, dans le domaine en particulier de la loi et de la justice. Et aujourd'hui, alors que l'agression par des policiers de Théo à Aulnay-sous-Bois le 2 février ne cesse de faire des remous, vous avez décidé de nous rappeler l'édit. Alors tenez-vous bien, parce que souvent c'est plutôt au XXe siècle que vous travaillez, l'édit du 16 mars 1667 qui fonde la police du XVIIe siècle.
Et oui, il y a 350 ans, presque jour pour jour, l'édit que présente Colbert à Louis XIV crée la charge de lieutenant de police, mais surtout constitue l'acte fondateur de la police sous l'Ancien Régime. Le texte précise le champ de la police, ses fins et ses moyens. Il affirme ainsi qu'elle consiste à assurer le repos public et des particuliers, à purger la ville de ce qui peut causer des désordres, à procurer l'abondance et à faire vivre chacun selon sa condition et son devoir.
C'est pas mal déjà.
C'est pas mal, hein. L'historien Vincent Denis rappelle toutes les charges qui incombent au lieutenant de police de Paris. Et il a de quoi faire. Il est responsable de l'approvisionnement, de la santé, de la voirie, des assemblées illicites, du port d'armes, des métiers et des mœurs. Soit dit en passant, ce puissant magistrat nommé par le roi est révocable ad nutum, donc sur le champ. Bon, mais Nicolas de la Reynie, le premier lieutenant de police, va tout de même occuper le poste pendant 30 ans.
Alors l'idée est de séparer la fonction de justice et celle de la police qui sera au service du roi, en l'occurrence Amélie.
Voilà. Le lieutenant de police en fait fait fonction de ministre ou du moins de conseiller d'État et peut être consulté par le monarque à tout moment. En fait, on assiste à ce moment-là à un tournant sécuritaire. En même temps que le bon roi Soleil crée l'Observatoire de Paris, eh ben, il entend surveiller ses sujets au plus près. N'oublions pas que la fronde n'est pas loin et donc Louis XIV multiplie les textes pour sécuriser son pouvoir. Ainsi, le texte de 1682 entend envoyer les bohémiens aux galères afin, je cite, de purger le royaume de cette engeance malfaisante.
C'est le terme de purge est quand même assez fréquent, effectivement.
Et oui, et un autre texte de 1713 s'attaque aux femmes débauchées pour combattre, je cite encore, la débauche publique et la vie scandaleuse. Bref, il faut filer droit et donc le roi invente une police adéquate avec le lieutenant général de police. Alors cette vigie précieuse, eh bien, elle va s'entourer de collaborateurs, tout d'abord dans la capitale du royaume. Les commissaires examinateurs au Châtelet deviennent des commissaires de police répartis dans les 17 quartiers de Paris. Ils rendent compte quotidiennement de leur activité au lieutenant général. Nicolas de la Reynie compte aussi sur un réseau d'indicateurs rémunérés, les mouches en liberté et les moutons en prison.
Alors les mouches, effectivement, pour tous ceux qui ont lu les aventures de Jean-François Parot, qui nous raconte cette histoire d'un personnage à la fin du XVIIIe siècle, eh bien ils connaissent ces mouches qui sont en fait des indics, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Mais alors, ce lieutenant, il peut aussi faire appel aux forces de l'armée, soit à la maréchaussée, soit à la garde de Paris. Il y a environ un millier de gardes aux portes et aux murailles de la capitale à l'époque. Le chevalier du Guet de Paris, aux ordres du lieutenant général de police, fournit ainsi le concours de 150 hommes. Enfin, le lieutenant de police a autorité sur les prisons d'État, la Bastille par exemple, et les maisons de force. Grâce à lui, une direction des prisons parisiennes va se mettre en place au XVIIIe siècle. Cette direction est en fait l'ancêtre direct de la préfecture de Paris. La préfecture de police de Paris, oui, voilà. On y arrive. Bon bref, il est magistrat, le lieutenant, il préside au tribunal de police du Châtelet et il distribue une justice expéditive dont les prisons d'État, on est enfermé par lettre du roi, pas toujours avec un jugement, il vaut mieux être en règle et bien pourvu. Une dizaine d'années avant l'édit de 1667, un texte avait créé l'hôpital général à Paris pour enfermer les mendiants et les vagabonds, mais aussi les aliénés, les filles dépravées ou les enfants fugueurs que les parents font enfermer pour correction, moyennant le paiement d'une pension. Tout ça pour dire que Louis XIV va instaurer une police efficace via la mise en place du lieutenant de police, lequel va bientôt être présent dans toutes les grandes villes du royaume. Et ce système policier existera jusqu'à la Révolution.
Et bien peut-être que dans une autre chronique, vous viendrez sur le 19e ou le 20e siècle avec les transformations justement du rôle de celui qui était en charge de la police dans la capitale, mais peut-être dans une modernité toute différente. On peut trouver, Amélie Meffre, l'article de Vincent Denis sur l'édit de 1667 sur l'excellent site, il faut le dire, Criminocorpus, qui est donc un site qui met en ligne beaucoup d'études et de travaux sur la question du crime, de la peine, et c'est donc disponible sur le net. Et lire également le livre de Vincent Denis, coécrit avec Catherine Denis, Police d'Empire, 18e, 19e siècle, paru aux presses universitaires de Rennes en 2012. On peut aussi lire le livre récent, il vient tout juste de sortir, de Vincent Milliot sur la question de l'admirable police du XVIIIe siècle. Tout cela permettra de compléter votre chronique. Je rappelle que dans cette émission, nous avons parlé de deux autres sujets, à savoir deux revues, la revue Transborder, photographie, histoire et société publiée aux éditions Macula, et la revue dont deux numéros sont déjà parus, Mémoires en jeu, enjeux de société, donc qui vient de sortir aux éditions Quimet, avec un dossier pour le numéro 1 sur les rapports l'opposition des visions du goulag de Solzhenitsyn et Chalamov. Et sur le numéro 2, autour du film Le Fils de Saül, donc dernier film sur Auschwitz-Birkenau. La semaine prochaine, nous vous parlerons de Révolution russe avec lundi, entre autres, un invité, Nicolas Werth, qui participe aussi à Mémoires en jeu. Ça sera le thème toute la semaine, la Révolution russe, de notre série d'émissions jusqu'à jeudi prochain. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marseille, par Francesca Fossati. David Federman était avec nous à la technique et Françoise Camard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.